France Culture.
Salle des archives. Mathieu Garrigou-Lagrange.
France Culture, salle des archives, la quête de Diams. Épisode 1, prières exaucées.
Un commencement est un moment d'une délicatesse extrême.
Il y a une maxime que j'aime bien reprendre parce qu'elle peut servir dans beaucoup de situations. On l'attribue en général à Sainte Thérèse d'Avila, qui est une religieuse du XVIe siècle, et elle dit ceci « Méfie-toi de ce que tu désires, car tu pourrais bien l'obtenir ». Autrement dit, ce que l'on désire n'est pas forcément aussi désirable qu'on le croit. Peut-être que ce que l'on croit désirer, ça n'est pas vraiment ce que l'on désire, mais une illusion qui ne nous correspond pas vraiment. Aussi étrange que cela puisse paraître au premier abord, je me dis que cette maxime s'applique assez bien au parcours de la rappeuse Diams. Car on peut dire que ses prières ont été exaucées. Elle est arrivée là où elle voulait être, elle a pu consacrer sa vie au rap et à l'écriture, elle a réussi à faire son chemin dans ce milieu pas très accueillant pour les femmes, elle a vécu de sa musique, elle a été reconnue comme une grande artiste, non pas seulement par le milieu musical, mais aussi par un immense public. En gros, Mélanie a réussi à devenir Diams.
Il y a des soirs comme ce soir où je suis obligée d'avoir la patate en vrai. Mais dans ma bulle, pour ceux qui me connaissent un peu, il y a aussi des soirs où tout ne va pas super bien. Il y a des soirs où je cogite beaucoup. Et il y a des soirs, ça va tellement mal en vrai, que je suis obligée d'en arriver à ça.
Mais quand elle a eu tout ça, elle a commencé à se rendre compte que quelque chose n'allait pas. Quelque chose clochait. Elle possédait tout ce qu'elle voulait posséder, et pourtant, un manque se faisait toujours sentir. Dans un sens, la célébrité l'empêchait de poursuivre son autre quête, qui était plus essentielle pour elle, cette quête dont elle parlait sans cesse dans ses chansons, et qu'elle avait cru atteindre par un chemin détourné, celui de la célébrité. À mon avis, c'est au moment où Diams s'est rendu compte de cela qu'elle a décidé de prendre le voile. Un peu comme Sainte Thérèse d'Avila, sauf que c'était pour la religion d'à côté, mais dans le fond, l'une comme l'autre, on priait le même Dieu.
Elle va interpeller le public, le chambrer, le faire chanter. Mélanie, ça tombe bien, c'est son prénom, et cet extrait de son album SOS.
La quête de Diams.
Je ne suis pas loin, je suis vraiment navrée, c'est pas dans mes habitudes d'être en retard.
Une série de Mathieu Garrigou-Lagrange, réalisée par Félix Levaché.
J'arrive près du pont qui mène à Radio France.
Attachée de production, Lily Cornaer.
Vous avez un mot de votre mère?
Ouais, j'ai un mot d'absence, vous inquiétez pas.
Dans ce premier épisode, nous allons chercher dans les archives et dans les paroles de Diams ce qui pourrait nous aider à comprendre son parcours. Un parcours qui l'a vu devenir une star immense, gagnant beaucoup d'argent et profitant de sa célébrité, jusqu'à sa décision de se mettre en retrait du monde pour embrasser la religion et la famille. C'est comme si elle avait cherché à calmer ses souffrances intimes de deux façons successives et finalement opposées, même si nous allons nous rendre compte que les valeurs qu'elle prône aujourd'hui étaient déjà présentes dans ses textes dès le départ et que la Mélanie avec le voile continue aussi d'être cette même fille extravertie qui aime porter des fringues de marque. Ces deux facettes peuvent cohabiter chez la même personne. On commence cette exploration avec un premier document qui date du 19 mars 2006.
J'ai mis 10 ans, je le vois, et c'était 10 ans de bonheur, hein, j'ai jamais galéré. Vu que moi, j'avais aucun objectif, et chanter devant 4 personnes, déjà, c'était un plaisir, je chantais. Donc j'étais contente, moi, d'aller rapper devant 3 mecs, à assister des cuverons à Bagneux, pour la fête au fromage, quoi. C'est tout bête, mais... Non, mais on prend ça comme une chance. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui... je vois plein de jeunes déçus et tout ça parce qu'effectivement, le schéma Starac et tout ça, ça leur a rentré dans la tête un truc assez bizarre. Et comme je disais, aujourd'hui, un jeune, on se demande si le jeune ne s'est pas rentré dans la tête parfois que l'anonymat, c'est un échec. Parce que la célébrité, c'est devenu presque une forme de réussite. Et c'est super triste, en fait, parce que ça ne sert à rien. Je vous jure, ça ne sert à rien, la célébrité. Mais rien du tout. Vraiment, moi, je ne vois aucun intérêt là-dedans. Ça ne fait que des problèmes.
Diams a donné cette interview 6 années avant d'annoncer publiquement la fin de sa carrière au cours d'une émission 7 à 8 le 30 septembre 2012. Dans cette interview à la première chaîne, elle a expliqué comment elle s'était convertie à la religion, comment elle avait choisi l'islam plutôt que le catholicisme, simplement parce qu'elle s'était mise à prier avec une amie qui se trouvait être musulmane. À mon avis, islam ou catholicisme, au début de son chemin spirituel, ça n'était pas vraiment le sujet. Elle voulait juste prier Dieu pour fuir ses démons personnels. D'ailleurs, la quête spirituelle comme réponse à la tristesse, c'était déjà un thème présent quand elle était tout en haut des charts, au moment de la sortie de son album Dans ma bulle, classé numéro 1 en France. Simplement, à ce moment-là, elle n'en parlait pas encore ouvertement, comme on l'entend dans ce document retrouvé dans la salle des archives.
Tu es croyante ?
Oui.
Voilà. Mais quel Dieu a tes faveurs ?
Je parle pas de religion, encore moins publiquement. Et ça me regarde, je suis croyante, c'est le plus important. Et en tout cas, on peut en parler sans les micros. Voilà.
Diams a raconté que le jour de sa révélation mystique, quand elle avait posé son front sur le sol pour prier avec son ami Zouzou, elle se trouvait avec une troisième personne. Ce jour de révélation, elle l'avait vécu avec sa grande amie, la chanteuse Vita, celle avec qui elle a chanté le célèbre titre « Confession nocturne ». On écoute justement Vita sur France Inter, dans l'émission Boomerang d'Augustin Trapenard, en décembre 2020.
Sincèrement, avec Diams, qui est vraiment une de mes meilleures amies, on a passé beaucoup de temps ensemble avant moi la sortie de mon premier album, et elle m'a beaucoup poussée. Elle me disait, t'as un don, il faut que t'écrives, il faut que tu racontes tes histoires. J'ai beaucoup appris à ses côtés aussi, parce que j'allais en tournée avec elle, alors que je faisais une chanson avec elle sur scène, mais je faisais toute la tournée parce que c'était mon amie. Je la regardais beaucoup. Vraiment, je pense que c'est une grande auteure, oui. Et j'ai appris beaucoup avec elle. Elle a mis la musique de côté, mais elle écrit encore des bouquins, elle écrit encore des textes. Des fois, on est ensemble à la maison, elle se met à me faire un couplet. Elle a ce don, en fait, d'avoir cette espèce de plume piquante comme ça qui rebondit, d'avoir toujours la bonne rime.
Et vous dites pas, c'est trop dommage qu'elle le fasse pas en public.
Bah, elle est plus heureuse comme ça, et moi, je respecte son choix, c'est mon amie, mais en tout cas, elle le fait toujours de façon merveilleuse.
Bettina Guio, vous êtes docteur et enseignante en littérature et vous avez publié aux éditions Le Mot et le Reste le livre Pas là pour plaire. Ce sont des portraits de plusieurs rappeuses, mais on a l'impression que ce titre s'applique d'autant mieux à Diams, qui a fait des choix qui ont dérouté, puisque au fond, elle a choisi sa vie personnelle contre ce que le public attendait d'elle. Comment vous expliquez ça ?
C'est une artiste rap qui, par la première fois, elle va parler des questions qui n'étaient pas présentes en fait dans les rap des années 90, même de début des années 2000.
Et c'était du rap un peu fleur bleue, et oui, ça c'est pas voilà, attendu dans le milieu du rap.
Des sentiments très intimes, mais surtout d'un point de vue féminin, et choses qui pouvaient sembler un peu naïf en fait comme thématique pour les rap de l'époque. Il ne faut pas oublier que c'était un rap qui avait atteint par la première fois un public très très large, notamment un public de jeunes filles et des femmes âgées aussi, des mamies. En fait, c'était un rap qui était écouté par des générations très très larges. Et donc là, c'est vrai que de ce côté-là, c'est une révolution. Même s'il y a eu des morceaux, surtout des morceaux de rap qui avaient eu un peu vocation d'atteindre un public plus large. On peut penser à MC Solar avec Bouche de là, ou des tubes comme celui d'Ayam chez Danse les Miak. Et c'est vrai qu'il est dépassé un petit peu les publics habituels à écouter du rap. Mais avec Diams, il y a eu vraiment un phénomène complètement nouveau. Et les publics habituels du rap, en fait, avaient du mal à accepter le rap de Diams. C'est marrant parce que ça m'est arrivé une fois en interview à la sortie justement du livre « Pas là pour plaire ». Et il y avait, la personne qui m'interviewait, c'est une personne qui connaissait très bien le rap, qui aimait beaucoup le rap, et qui me disait à l'époque, j'écoutais Diams, mais j'avais honte de le dire autour de moi. Et donc, c'est vrai que de ces côtés-là, il y a eu vraiment une révolution par rapport aux thématiques et au public habituel du rap.
Nous, les humains, avons une certaine tendance à conduire nos vies en fonction d'une quête principale. Nous sommes comme ces personnages d'heroic fantasy qui doivent atteindre un Graal, vaincre le gros monstre de la fin pour finalement devenir nous-mêmes. Alors on se met en route sur le chemin de cette quête, on avance, on cherche 24 heures sur 24, on y consacre beaucoup de nos pensées et de notre travail, on suit cette boussole qui nous indique le Graal, en pensant que le jour où nous aurons cette chose-là, ou bien cette vie-là, nous serons enfin pleinement satisfaits, enfin pleinement heureux. La quête profonde de Diams n'était pas de devenir célèbre. Ce qu'elle voulait vraiment, ce à quoi elle pensait chaque jour, ce à quoi elle travaillait le plus, c'était à trouver l'amour, l'âme sœur, le prince charmant, et par voie de conséquence, à trouver la paix intérieure. Il suffit de lire les paroles de ses chansons pour s'en rendre compte. Par souci d'efficacité, elle était même allée jusqu'à laisser son adresse e-mail à la fin de son titre « Jeune demoiselle ». Elle avait invité les hommes, les mecs mortels, comme elle les avait définis, à lui envoyer des lettres d'amour assorties de deux photos, parce que une, on le sait bien, c'est de la
triche. Je te trouverai peut-être sur Internet, qui sait. James, victime de l'an 2000, tous les moyens sont bons pour trouver l'homme de sa vie.
Grâce à sa célébrité immense, elle avait reçu environ 50 000 courriers de prétendants, sa boîte mail avait explosé. Mais ces 50 000 princes charmants n'avaient pas réussi à combler le vide. Elle avait atteint le Graal, oui, mais pas celui de sa quête. Elle avait vaincu le monstre de la faim, acquis la célébrité, et voilà qu'elle se rendait compte que ce qu'elle cherchait vraiment, c'était l'amour et le sentiment de protection qu'il procure. Or, ce Graal-là continuait de lui échapper. Méfie-toi de ce que tu désires, disait Sainte Thérèse, car tu pourrais bien l'obtenir. Bettina Guillot, est-ce que vous avez l'impression que la célébrité, ça a été quelque chose de plutôt difficile à vivre pour Diams?
Sa manageuse qui la suivait l'expliquait bien. Il y avait d'un côté la scène où elle donnait tout, et cette scène qui était remplie par des milliers de personnes. Et après, il y avait les coulisses où elle s'effondrait complètement, en fait. Elle a été très touchée aussi et très mal vécue quand on prenait des clichés, photos d'elle, une fois en maillot de bain et en vacances. Et quand il y a eu sa photo où elle portait un voile intégral. Bon, voilà, c'était... elle a très, très mal vécu cette façon aussi d'exposer son intimité à tout le monde.
Et pourtant, ce qu'elle recherche, et elle le dit dans ses chansons, je le disais dans le texte précédent, c'est l'amour. Est-ce que vous pouvez nous parler de sa vision de l'amour telle qu'elle la présente dans ses chansons, telle qu'elle en parle elle-même ?
Elle parle de l'amour comme on peut le ressentir toute jeune fille. Et jeune femme, peu importe sa classe sociale, et cette quête finalement d'une stabilité émotionnelle qui peut venir principalement par l'amour et dans l'essence de par le fait de trouver son prince charmant. Donc ça peut sembler une vision très naïve de l'amour, mais qui a un lien aussi avec des questionnements féministes, en fait, des questionnements que les féministes se sont posés depuis un moment, dans l'essence que les femmes, et surtout les jeunes filles, mais un lien par leur éducation, ils vivent pas la quête de l'amour de la même façon que les jeunes garçons.
Par amour, c'est tout ce que t'as su dire. Par amour, rien n'est impossible.
Dans Par amour, dans Feuille blanche, elle parle de rupture amoureuse. En fait, l'amour, il est rarement heureux chez Diams. Il n'y a pas beaucoup de chansons où l'amour n'est pas une déception.
Elle parle de ses propres déceptions amoureuses, où elle utilise la première personne pour parler des déceptions amoureuses, mais elle parle des déceptions amoureuses en général qui souffrissent les femmes. Et il y a plusieurs morceaux où cette question-là, elle est vraiment présente, des femmes d'âge différentes, des femmes de classes sociales différentes. Un morceau très intéressant où une jeune femme perd son compagnon parce qu'il s'est fait écraser par une voiture dans un accident en fait de trafic de voiture. Et là, Diams, à la fin du morceau, elle explique en fait que la femme qui était à l'origine de cet accident, en fait, elle était troublée parce qu'elle venait d'apprendre que son mari était infidèle. Donc voilà.
Donc l'infidélité, ça revient d'ailleurs très
l'infidélité,
souvent.
L'infidélité, c'est lié aussi à la déception amoureuse. La déception amoureuse, en général, c'est lié à l'infidélité. L'infidélité comme sujet, en fait, y a les hommes ne sont pas fiables. Et cet homme fiable, est-ce qu'il existe vraiment? Je pense quand elle dit qu'elle cherche un mec mortel, c'est cet idéal-là, un mec qui peut-être n'existe pas.
Yeah, come on, let's do a little scratching.
C'est ça la beauté de la musique. Ne peut pas te l'enlever. Vous n'avez jamais ressenti ça avec la musique?
Je me débrouillais pas mal à l'harmonica. Mais j'ai pu continuer ici. Ici, ça n'a plus aucun sens.
C'est ici que ça a le plus de sens. On en a besoin pour ne pas oublier.
Oublier?
Ne pas oublier que... il y a... des endroits... dans le monde qui ne sont pas faits de murs de pierre. Qu'il y a quelque chose... en nous. Qu'ils ne peuvent atteindre. Qu'ils ne peuvent toucher. Qui est à vous.
Et de quoi tu parles?
L'espoir.
Diams s'appelle en réalité Mélanie Georgiades. comme elle l'a souvent raconté, y compris dans ses chansons, ces deux identités sont comme deux personnes qui cohabitent au sein d'un même corps. D'ailleurs, dans son titre « Mélanie » sur l'album SOS, on a l'impression que Mélanie et Diams s'affrontent.
Qu'est-ce que tu fais, là ? Sors ton livre ! Prends ton stylo et craque, là ! Non, j'ai plus envie. Lâche-moi. Je fais plus rien. Quoi ? J'en ai marre, je fais plus rien. Mais arrête un peu, vas-y, lève-toi !
Diams, c'est la rappeuse puissante et qui n'a peur de rien. Mélanie, c'est la jeune fille blessée qui a besoin de réconfort. Regardons un peu d'où elle vient. Grâce aux archives.
La question finie ?
Non, j'avais une petite question. En fait, ce que je voulais savoir aussi, c'est que tu parles beaucoup de métissage. Quel sens a ce mot pour toi ?
Alors, moi, je me considère de français d'ailleurs. Parce que. Moi, je vis le métissage assez bizarrement parce qu'il n'est pas écrit sur ma gueule, excusez-moi l'expression. Mais moi, je ne vis pas de discrimination, entre guillemets. Mais,
en tout cas, pas pour la couleur de la peau.
En tout cas, ça ne se voit pas. Mais des fois, quand je regarde mon schéma familial, je me dis plus métisse que moi, tu meurs. Parce que finalement, moi, j'appartiens carrément à un pays qui parle pas ma langue. Je suis d'un pays où les gens ils connaissent pas du tout la culture française. Quand je vais là-bas, je suis étrangère à 100%.
Oui, mais vous êtes venue à 3 ans, vous n'avez pas été marquée par Chypre.
Oui, mais c'est quand même ma famille.
Oui.
C'est mon père, c'est tout le monde qui est là-bas.
Mélanie Georgiades, future Diams, est née à Nicosie, la capitale de Chypre, en juillet 1980. Son père est chypriote grec et sa mère française. Le couple ne résiste pas longtemps aux absences répétées du père, qui abandonne le foyer alors que Mélanie n'a que 3 ans, et son absence est également l'un des thèmes de ses paroles. C'est donc avec sa mère qu'elle grandit, en France, dans des pavillons de banlieue au sud de Paris, à Brunoy, puis à Orsay. Une enfance près des barres d'immeubles, mais pas non plus à l'intérieur, dans un foyer où l'argent ne coule pas à flot, mais où ce n'est pas non plus la misère. L'école n'est pas son fort, contrairement à la musique. À 14 ans, elle commence à rapper et se choisit un nom, Diams, parce que les Diams, ce sont des pierres dures et brillantes, manière de conjurer le destin, de repousser cette tentative de suicide qu'elle a faite en ingérant des médicaments. Elle a raconté ses débuts à Jeanne-Martine Vacher sur France Culture en 1998. C'est le document le plus ancien retrouvé dans notre salle des archives.
Diams, alors.
Oui, bonjour.
Bonjour, vous allez chanter ce soir, vous êtes rappeuse. Vous m'avez dit quand on parlait des sujets, vous m'avez dit au début, moi j'étais très égoïste, j'étais dans mes choses à moi. Oh, et puis c'est... maintenant avec la maturité, j'ai changé. Alors, c'est assez mignon parce qu'en fait vous avez 17 ans et le début c'était à 14, donc il y a 3 ans. Hein. Vous avez l'impression en 3 ans d'avoir
tant changé de sujet ? Non, j'ai pas remarqué évolution très forte, mais il s'avère qu'il y a 3 ans, mes premiers lyrics, donc mes premiers textes, ils parlaient que de moi. Moi ceci, moi cela, nanana. Et puis au fil du temps, on s'aperçoit
c'était quoi
que...
Vous aviez envie de dire quoi sur vous à
14 ans ? C'est la flambe, c'est « viens me tester, je te teste ». Non, mais c'est...
Tout un programme,
c'est, c'est inutile, mais moi, j'aimais ça. Bon, maintenant, avec le temps, je m'aperçois que l'auditeur, il n'a pas nécessairement envie de...
De vous tester.
D'entendre ma vie, que je lui dise que je suis comme ci ou comme ça. Il aime... Il s'attache au flow aussi, donc c'est quelque chose à travailler. Une personnalisation du flow qui est importante parce que...
Du texte, hein, de ce
du texte,
allez...
De la façon dont il est rappé aussi.
Ouais.
Bah, disons que moi, je suis encore lycéenne. Donc, j'ai aussi des études à gérer. Mais le rap, ça me permet de ne pas passer mon temps à rien faire, je dirais. Disons qu'au départ, c'était... pour tout dire, j'étais en internat. Et en internat, il n'y a rien à faire. Mis à part des conneries. Donc, on s'est mis à rapper. Avec un ami d'enfance aussi, Fada. Excusez-moi, mais il s'appelait Fada. on s'est mis à rapper. Et disons que c'est quelque chose qui, au départ, nous tenait pas nécessairement à cœur. On faisait ça vraiment pour le délire. Et puis, le rap a évolué bien plus vite qu'on ne le pensait. Et aujourd'hui, il y a moyen de faire quelque chose de sérieux, quoi.
14, 15 ans, c'est le moment de toute l'ému pour Mélanie Georgiades. Elle découvre la musique d'NTM en concert, en même temps qu'elle écoute des chansons de Francis Cabrel. Et ce grand écart dans ses goûts musicaux va donner beaucoup de richesse à son travail. Dans les années 95, qui sont les années d'adolescence de Diams, la radio Génération 882 s'est positionnée sur le rap. Sur certains créneaux, elle permet à qui le souhaite d'appeler la station pour rapper en direct au téléphone.
Ok, c'est l'heure du freestyle. Freestyle.
À ce jeu, Mélanie Georgiades excelle. Et c'est ainsi qu'elle se fait remarquer et entre en contact avec d'autres rappeurs de la région parisienne.
Quand le jam c'est dans la place,
oh my god.
Mon flow fonce sur le fait, forêt se propage comme le feu de forêt dans les tympans, même les tympans tchatchent tout en taffant. Mon procédé déclenché, le croissé d'épuisé, penché sur le flot de la femme qui l'a percé.
La rencontre percé, déterminante, voyant, c'est avec le groupe Mafia 13. Percé,
face à moi bien tendu, la langue bien pendue, rien n'est vendu. L'intouchable du 13 s'est rendu, coupable à son aise, de l'inavouable, sa
femme est. Elle est déjà présente sur deux de leurs titres alors qu'elle est à peine majeure et on commence à l'entendre sur des compilations de rap. C'est aussi l'année où elle signe un premier contrat et un an plus tard, son album Premier Mandat est déjà dans les bacs.
Alors il est où le blême? Ouais, c'est quoi le problème? C'est quoi que t'as dit? Que t'aimais pas les étrangers et leur emblème? Et c'est quoi qui te gêne? Qu'on compatisse avec ta haine, que l'on soit complice du bordel ou qu'on n'ait pas les mêmes gènes? Mais c'est quoi qui te gêne? Qu'on ait le même Dieu et pas les mêmes prières? Que nos mêmes jeux soient pas les mêmes qu'hier? Dis-moi, c'est quoi qui te gêne? Qu'on te bouffe de l'oxygène ou que nos discours engagés n'aient jamais les mêmes thèmes? Eh, c'est quoi qui te gêne? Tu peux me dire, vas-y, n'aie pas peur, qu'on ne pense pas de la même couleur ou que l'on naisse dans l'erreur. Eh, c'est quoi ce qui me gêne? C'est de savoir que sans le regard, t'infligerais pas les mêmes peines, tu serais pas le même bâtard. C'est quoi ce qui me gêne? C'est que tout ce qui te gêne, ce soit ce que j'aime.
Il y a tout un côté ego trip en fait où Diams va plutôt montrer sa performance rap.
Elle fait des discours, elle parle beaucoup.
Oui, voilà, et surtout, et là ce qui est intéressant, c'est justement et quelque chose qui revient souvent chez d'autres rappeuses avant Diams, mais qui n'ont pas connu effectivement sa même notoriété, c'est l'effet de s'affirmer, de devoir affirmer aux autres qu'on peut rapper en tant que femme.
C'est un album très rap, mais classiquement rap,
oui,
alors qu'après ça va devenir un petit peu autre chose, Diams.
Là, c'est vraiment ego trip, c'est vraiment des questions sur la technique rap en elle-même, sur des questions sociétale, le racisme, qui d'ailleurs ça va être un sujet qui va toujours toucher Diams aussi de près, au-delà de la question purement des sentiments féminins. Et cette question-là, elle sera présente aussi dans les autres albums.
Les influences musicales, c'est à la fois IAM, mais aussi Brassens, Cabrel, Dr.
Oui.
Dre, ça va un peu dans tous les sens.
Il faut savoir que ce n'est pas juste une caractéristique des Diams. La plupart des artistes rap en France, ils revendiquent en fait cet héritage, notamment des grands noms de la chanson française, des liens avec la langue française qui passe essentiellement par la chanson, par l'écoute des grands textes, des grands chansonniers, des grands chanteurs en fait.
L'album qui suit Premier Mandat s'intitule Brut de Femme et compte en sens un immense tube DJ.
J'suis pas d'humeur à ce qu'on me prenne la tête, non. Ni d'humeur à ce qu'on drague mon mec. Tu connais ni mon histoire ni mes problèmes. Cherche-toi un motard ou un mec copain. Fais pas le mannequin, j'imagine déjà la tête que tu dois avoir le matin. Donc reste sage, ne me teste pas. Laisse-moi kiffer la vibe, ne me stresse pas. Tu fais la meuf in, mais nous on le sait que t'as pompé ton style sur Beyoncé. J'suis pas une bombe latine, mais moi le DJ passe mon vinyle sur ses platines.
Le succès de ce tube est immense, mais il n'est pas si étonnant. Diams a déjà conquis un public qu'elle ne le sait pas encore. Le 21 juin 2003, jour de la fête de la musique, avant même la déferlante de DJ, Diams est programmée pour chanter à la Fnac des Halles. Son titre ne tourne pas encore beaucoup sur les radios, mais quelque chose est en train de se passer. La salle est prévue pour recevoir 200 personnes seulement, mais ce sont 2500 fans qui s'y sont donné rendez-vous. Diams provoque quelque chose chez ceux qui l'écoutent, quelque chose de spécial, et ça n'est encore que le début.
C'est un moment où elle bénéficie d'une certaine, si on peut dire, discrimination positive. Dans le sens, il y a la radio Skyrock, qui était vraiment à la recherche d'une artiste féminine. Et il y aura, en fait, c'est un album qui a pu bénéficier d'une production très, très soignée musicalement et tout ça, dans ce qui a
on
permis...
On a misé sur Diams,
voilà,
alors.
On a vraiment misé sur Diams. Et d'ailleurs, l'ancien directeur de Skyrock, Laurent Dounon, je pense... dans son livre en fait, où il parle justement de toute cette période des années 90, début des années 2000, il dit clairement en fait, il nous fallait une artiste féminine, on cherchait une artiste féminine, il y a Diams qui est apparue, sa proposition qui était un peu différente, et c'est vrai qu'ils ont beaucoup misé sur elle, et ces morceaux-là, déjà, il a bénéficié aussi d'une diffusion par Skyrock qui était très très importante, qui a facilité aussi l'effet qui arrive à un public très large.
Mais au-delà de DJ, il y a vraiment beaucoup de tubes qui sont des tubes très étonnants, assez exceptionnels. Est-ce que vous arrivez à mettre un peu des mots sur ce qui fait que ça crée à ce point-là une espèce de choc quand même esthétique et que la France entière tout d'un coup se met à danser là-dessus?
Oui, mais bah, déjà parce que c'est un morceau qui est rappé par une femme. Et donc effectivement, ça crée une différence. Et aussi parce que ça parle bah, justement des thématiques qui peuvent aussi attirer un public beaucoup plus élargi, en fait. L'effet, bon, là, c'est un morceau, au-delà du simple fait que c'est un morceau facile à danser en boîte de nuit, et c'est un morceau aussi qui parle d'une condition des femmes, qui dénonce une certaine image de la femme, qui se positionne, en fait, aussi sur ces questions-là. Et donc, effectivement, ça parle à beaucoup de gens.
Plus fort.
Personnellement, j'avoue être passé un peu à côté de cet album à sa sortie. Pas de DJ qu'il était difficile de manquer en cet été 2003 où il était diffusé absolument partout, mais à côté du reste de l'album. C'est même précisément ce tube qui m'a empêché d'écouter les autres titres. J'avais l'impression d'avoir compris de quoi il s'agissait, alors que non, en fait, l'album est bien plus riche que cette chanson toute seule. Toujours est-il que Diams devient dans les mois qui suivent un véritable phénomène. On commence même à l'enseigner à l'école, comme on l'entend dans cette archive de France Culture en février 2004. Enfin, elle n'était pas non plus officiellement au programme.
Démonstration dans le cours de Marie Juzot. On part aujourd'hui d'un entretien avec la chanteuse Diams.
Ce que je pensais faire, c'est qu'on reprenne la fin de l'entretien d'abord. Parce que dans l'entretien, en fait, la journaliste pose différentes questions à Diams et on avait vu que ça lui permettait de définir elle-même son album. Et en comparant la manière dont elle le définissait et ce que vous, vous en pensez, ça va vous donner des pistes pour votre article critique.
Les coups qui lui sont donnés aussi par l'homme qu'elle aime, ce sont des situations assez critiques. Et qu'est-ce que vous pensez du titre? Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs? Brut de femme, le titre de l'album.
Diamant brut. Ouais. Mais diamant, ça montre aussi que les femmes sont plus dures que les hommes. Avec tout ce qu'elle a subi, elle est toujours là. Mais moi, je dirais aussi brut, ça cache plusieurs facettes de la femme qui n'a pas encore été façonnée au diamant.
Diamant que les femmes sont brutes? Non.
Non, mais... non, quand même pas. Mais un petit peu d'homme en soi, comme les hommes aussi, on va dire.
Un peu violente.
Ouais, bah pour elle, parce que c'est du rap un peu violent quand même.
En tout cas, il y a de l'agressivité dans ses paroles quand même.
Comment?
Il y a de l'agressivité dans ses paroles.
Parce que j'aime beaucoup. Parce que la vie me blesse tant. Parce que dans le fond, mes cicatrices me plaisent tant. Parce que dans ce monde, j'ai pas trouvé mes repères. Parce que je me cherche.
Mais là, ce qui est intéressant, parce que Diams arrive à atteindre un grand public, à être facilement écouté par les petites filles et les parents. Pour les parents, ça ne pose pas de problème que leur petite fille écoute du Diams, parce que justement, il n'y a pas de vulgarité, des gros mots et tout ça qu'on avait l'habitude peut-être d'entendre beaucoup plus souvent dans les rap. Mais par contre, il y a beaucoup de violence parce qu'elle dénonce, elle pose des questions qui gênent aussi, en fait, et même dans la façon, dans sa diction, dans son flow. Il y a cette colère, il y a cette violence et qui a été repérée dans l'interview et qu'on vient d'entendre.
Nous avons parlé du parcours personnel de Diams, mais comme toutes les stars qui n'ont pas hésité à prendre la parole en public, elle incarne davantage que sa trajectoire à elle. Diams pose en effet des questions politiques, elle les pose dans ses chansons et elle les pose de par son parcours. Or, ce parcours semble paradoxal de prime abord, en particulier sur la question féministe. De quel côté se situe-t-elle ? Elle s'affirme d'un côté comme une femme ultra-moderne qui défie le monde masculin du rap, et dans le même temps, elle prêche la tradition et les valeurs familiales. C'est ce grand écart que nous allons tenter d'éclairer dans l'épisode qui vient, grâce aux archives.